Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Copelia Menardi et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère, réalisation Daniel Finot. Et autour de moi, ce soir, Lucille Como, Elisabeth Philippe et Elisabeth Franck Dumas pour parler ensemble de Trio pour un monde égaré de Marie Redonnée au Tripode, Le Traqué Kurde de Jean Rollin chez POL et L'Étang de Claire-Louise Bennett à l'Olivier. Copelia Menardi surveille d'ores et déjà les fils Facebook ou Twitter pour donner à entendre vos commentaires. Si vous aussi vous avez lu ces livres, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Picnic de Joshua Logan en version restaurée. C'est édité chez Carlotta. Nous ouvrons cette dispute avec Marie Redonnée, écrivaine rare, d'abord publiée chez Minuit, puis chez POL, qui est éditée depuis 2 ans chez l'excellente maison Le Tripode. Dans ce nouveau roman, 3 personnages, 3 lieux, 3 récits qui nous plongent quand même dans des mondes où les guerres, le terrorisme, bref, ça va mal. On interroge aussi la place de l'individu dans ce monde qui cherche à tout contrôler. C'est écrit sur mon passeport. Nom Shaw, prénom Willy. J'ai eu d'autres identités, Willy Shaw est la dernière. Mon adresse, domaine Dolz à Salz. Je ne veux plus en changer. La photo sur mon passeport est ressemblante, visage bien dessiné, cheveux gris, frisés, coupé ras, yeux verts, regard perçant et inquiet, lèvres épaisses, nez fort et busqué, arcade sourcilière proéminente, rides profondes sur le front et les joues. Je suis petit de taille, robuste et trapu. Je vis retiré au domaine Dolz depuis 2 ans. Ma vie a été multiple, comme mes identités. J'ai résisté aux tentations de rentrer dans le rang à chaque fois qu'elles se sont présentées. J'ai voulu vivre ainsi, insoumis et précaire. S'il y a un fil rouge qui me conduit, il est invisible. Je me fie à mon instinct, qui m'a pourtant souvent trompé. L'égarement fait partie de mon chemin. Moi seul sais que je n'ai pas encore réalisé ce que je dois réaliser. Willy Shaw, ce sera le nom écrit sur le registre des décès à la mairie de Solz, le jour de la mort. Ainsi commence le livre de Marie Redonnée, mais j'aurais pu choisir 2 autres débuts, puisque je l'ai dit tout à l'heure, 3 personnages, 3 lieux, 3 récits. Il y aura, après Willy Shaw, il y aura Douglas Marenko, et il y aura, comment s'appelle-t-elle, Tête Combo. Encore que les identités soient vraiment une des questions complexes de ce livre, n'est-ce pas, Lucille Como?
Oui, alors c'est un livre que je ne suis pas absolument certaine de trouver très bon. Ce que vous avez lu est plein de promesses. Quand on lit le départ, ça accroche tout de suite parce qu'il y a en germe, dans cette écriture-là, beaucoup de choses qui sont assez agréables à lire d'habitude, peut-être des romans d'espionnage, des récits mystérieux, des personnages à plusieurs identités. Ça ne reste que germe en permanence. Il y a un côté extrêmement frustrant, mais qui est volontaire du récit, qui passe très vite sur absolument tout avec une dextérité dont on voit bien qu'elle est voulue, quoi. C'est une sécheresse du style qui est voulue. Donc on est tout le temps en tant que lecteur dans ce récit qui est très court en plus, en recherche de clés ou de fil rouge justement, et pas de fil rouge comme l'indique précisément l'incipit. En revanche, on est vraiment très très pris par le rythme. Je crois que c'est ça qui fait qu'on ne quitte pas du tout le récit quand on s'est lancé dedans. Vous le disiez, il y a trois personnages, donc il y a une polyphonie évidente. Le livre s'appelle Trio, donc il y a quelque chose de musical dans la manière dont Marie Redonnet écrit. Ils alternent dans un ordre très strict. On le voit, les paragraphes sont presque à chaque fois de la même taille. Il y a un sens même du paragraphe, de ce que ça fait un chapitre sur la page, qui est quelque chose, je pense, d'important pour elle. Et puis, il y a un rythme qui est aussi le rythme... peut-être le plus intéressant, qui est celui qui forge le rythme des phrases, dont elle parle d'ailleurs à la fin de ce petit roman, puisque à la fin du roman, il y a un ajout qui est un petit texte autobiographique qui explique le parcours de Marie Redonnet à la première personne, exactement, qui est dédié à son fils d'ailleurs, et dans lequel elle lit très fortement son expérience personnelle, y compris amoureuse, familiale, psychanalytique, à l'écriture de ses récits. Donc bref, elle parle elle-même de cette manière qu'elle a choisi d'écrire très sèchement, avec des phrases qui sont tout le temps, en gros, sujet, verbe, complément. C'est assez surprenant au départ. Et en même temps, c'est peut-être dans cette sécheresse-là et dans la frustration qu'elle apporte au lecteur que réside l'intérêt.
Elisabeth Franck-Dumas, votre sentiment, premier sentiment sur Trio pour un monde égaré?
Alors, c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée. Je rejoins Lucille Como, alors pas tant dans le détail, mais sur l'idée que je ne suis pas sûre de l'avoir aimé. En revanche, il m'a énormément intéressée. J'ai commencé par y être totalement réfractaire, parce que l'univers très hyper symbolique, très stylisé, l'enchaînement un petit peu mécanique des actions, l'absence de tout référent, on ne sait pas bien où on est, ou alors quand il y a des références plus ou moins opaques à l'actualité, je trouve pas que ce soit très réussi. Ça m'a plutôt gênée. L'absence d'épaisseur historique aussi, finalement, parce que ce sont des personnages presque sans passé. Enfin, on en a très peu. Alors, on comprend après, en lisant son texte, que justement, ça l'intéresse beaucoup, l'absence d'histoire, l'absence de transmission, ça la travaille.
Mais ils ont quand même énormément de passé, tous les trois, c'est même un des sujets de chacun des textes, semble-t-il, Elisabeth, si
mais, je puis me permettre. Oui, mais alors justement, il y a une grande interrogation sur ce passé, est-ce que c'est une mémoire crédible ou non? Est-ce que
ne cesse de s'y référer, en tout cas,
il s'y réfère, mais ce passé est perpétuellement mis en cause.
Ça, d'accord.
Tout ça est habituellement pas trop mon goût, c'est peut-être plus le goût de lecteur de science-fiction. C'est vrai que je lui reconnais énormément d'efficacité dans la manière d'agencer l'action. Et comme je disais, l'irruption de choses qui pourraient se rapporter à notre actualité de manière très précise dans ces univers assez artificiels et clos m'a plutôt gênée. Mais alors, petit à petit, j'ai commencé à être assez séduite par justement la clôture totale de ces fictions qui en font un vrai exercice de volonté de la part de l'auteur. Alors, n'importe quelle fiction, vous me direz, est un exercice de volonté de la part de l'auteur, mais là, on sent vraiment l'auteur qui décide de plein de choses de manière totalement arbitraire, et pourtant ça passe. Par exemple, elle nous annonce qu'un personnage, tout à coup, dans l'intrigue, tel personnage féminin, Moni, je crois, s'est tiré à la carabine, alors donc tout s'arrange. Il y a plein de moments comme ça qui ont un côté presque enfantin, qui est enfantin, donc démiurgique, c'est-à-dire un enfant qui crée son univers et qui se dit maintenant on dirait qu'en fait elle savait tirer à la carabine, mais justement c'est une. Alors au début ça m'a dérangé, puis petit à petit ça commence à être, je dirais, une vraie séduction, cette manière qu'elle a de tirer ses personnages vers une destination bien précise qu'elle-même connaît déjà, sans que les péripéties finalement les freinent. On n'y croit pas, on sait qu'ils vont, arriver exactement là où elle a prévu qu'ils arrivent, avec en arrière-fond, quand c'est diffus, c'est-à-dire quand c'est pas une référence à des événements précis, mais quand c'est quelque chose de très diffus, la culture contemporaine, la thématique de perte d'identité, de perte des mémoires, de contrôle des individus, tout ça en revanche c'est très réussi, qui en font presque des personnages de jeux vidéo. Et alors ce qui est fascinant, c'est que c'est justement le long texte qui suit, parce que c'est pas un petit texte, il fait un quart du livre, il fait une cinquantaine de pages, elle explique son trajet d'auteur, et c'est exactement la même chose. C'est l'expression d'une volonté d'être auteur, d'être écrivain, quoi qu'il lui en coûte, d'être auteur de sa vie aussi, pardon, pour d'y aller avec mes gros sabots, mais c'est quand même ça, et puis elle le dit elle-même. Et quoi qu'il en coûte, quelles que soient les réceptions critiques, les réceptions des éditeurs, le fait que des pièces soient mal reçues, d'ailleurs, même si elle dit qu'elle est extrêmement choquée, finalement, c'est intéressant, on ne la sent absolument pas se remettre en question. Le problème est plutôt du côté de tous ces gens qui reçoivent son travail plutôt que du sien.
D'autant qu'elle n'est pas très tendre. Hein.
Et l'enjeu n'est pas là d'ailleurs. Enfin, je veux dire, l'enjeu n'est pas de se dire, tiens, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. C'est que, voilà, elle fait son œuvre, elle fait aussi la critique de son œuvre, donc elle nous fournit tout. Mais je trouve que c'est passionnant, c'est cette volonté d'avoir voulu écrire quoi qu'il arrive, qui en fait vraiment un personnage de ses propres fictions. D'ailleurs, elle parle pas mal de son analyse. Donc, on voit, c'est une aventure du moi. C'est une aventure du moi qui se déploie là. Et que je trouve, voilà, vraiment passionnante tout ce qu'elle met en jeu, même si, un petit peu la manière dont je sais comment, je ne suis pas sûre que ce livre me plaise. Mais en tout cas, je trouve qu'il nous travaille et,
bon, c'est déjà beaucoup.
C'est énorme.
Par les temps qui courent.
Non, mais c'est énorme, surtout, d'autant plus quand le livre, finalement, la partie fiction ne plaît pas tant que ça. Mais dans l'agencement des deux, au début, je me suis dit, mais pourquoi on a ce texte qui vient nous expliquer ce qu'on doit en penser, etc. Mais tout fait partie de ça. Ces odyssées-là, je les trouve passionnantes.
Oui, enfin, elle a eu la bonne idée, et son éditeur avec, de placer le texte à la fin qui la concerne. D'autres l'auraient mis au début, ça aurait été autrement problématique. Donc là, moi j'ai découvert, j'étais presque déçu que les histoires s'arrêtent, parce que je découvre qu'en fait les 50 pages qui restent n'étaient plus les histoires des trois, mais l'histoire d'une, Elisabeth Philippe.
C'est amusant parce que j'ai ressenti la même perplexité que Lucille et Elisabeth. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, moi, c'est plus cette langue très, très minimaliste, très épurée, un peu à la Beckett, qui m'a arrêtée. On se retrouvait avec, il y avait un contraste comme ça entre un univers, effectivement, qui peut être rapproché de la science-fiction et puis cette langue un peu sans épaisseur. Et pourtant, au départ, je me disais, bon, je vois pas bien l'intérêt littéraire de ce livre, de ce texte. Et c'est peut-être finalement sa force, puisque en dépit ou peut-être grâce à cette langue très, encore une fois, très épurée, je trouve qu'il y a des images qui émergent et qui demeurent. En très, très peu de mots, elle arrive à faire surgir des mondes qui certes sont artificiels. Et oui, je trouve qu'il y a un côté jeu vidéo, effectivement. Mais ces trois personnages, alors, c'est pas qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est qu'ils ont des histoires troublées, c'est que leur identité est multiple, ils se battent avec ça. À chaque fois, ce sont des histoires extrêmement, extrêmement riches. Moi, j'étais particulièrement sensible à celle de la femme, Tête Combo. Et très étrangement, peu à peu, en fait, en lisant ce livre, j'avais l'impression presque d'être dans un roman japonais. Je n'avais pas encore lu la postface et je pensais, par exemple, à Kawabata. Puisque cette jeune femme, la femme, le personnage féminin, Tête Combo, est une jeune femme noire qui débarque de son pays, dans un pays plus riche, et rencontre un photographe qui veut faire d'elle la réincarnation d'une déesse. Et donc, à la faveur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, elle devient blanche, elle se réincarne dans cette déesse, et puis elle va finalement se libérer de l'emprise de ce photographe, vivre dans un quartier très pauvre, le quartier des Brumes, dont les habitants perdent la mémoire. Et au cours de ses pérégrinations dans ce quartier, elle se retrouve un moment dans un salon de beauté dont la tenancière promet aux femmes qui le fréquentent de les transformer totalement. Et là, je trouvais qu'on basculait dans un monde, oui, qui me rappelait un peu celui de Kawabata. Et en lisant la postface ensuite, elle évoque toutes ses références, et notamment les haïkus. Et c'est vrai que c'est un... Malgré cette sécheresse, il y a énormément de mondes qui surgissent, les mondes qu'elle-même crée, et puis tous les mondes littéraires aussi dont elle est nourrie. Donc il y a Kafka, il y a Orwell, il y a Beckett, c'est extrêmement riche. Moi j'ai aussi beaucoup pensé à l'un des derniers livres de Volodine, ou plutôt de l'un de Lutz Bassmann, Black Village, dont on avait parlé ici, notamment avec ses... cette frustration volontaire, finalement, cette volonté de frustrer le lecteur en n'achevant pas les histoires. Là, c'est pas la même chose, les histoires sont achevées, mais finalement, c'est un peu le même principe. C'est ces voix qui nous racontent des choses, mais on ne saura jamais vraiment l'entièreté de ce qui leur arrive. Et donc, j'ai beaucoup pensé à ça aussi, et j'étais très, très intéressée par la postface et la lucidité avec laquelle Marie Redonnet retrace son propre parcours et parle de son travail.
Alors, j'étais en train de vous écouter tout à fait attentivement, mais je suis en train de me livrer un petit jeu qui consiste à savoir combien de pages sont consacrées à chacun des récits. Parce qu'alors moi, à l'inverse de vous trois, moi j'ai été immédiatement saisi par ce livre, alors que j'aurais aimé le lire en une fois. Il a fallu que je le pose une fois et que je continue ensuite. Mais vraiment, moi, j'ai été absolument happé tout de suite, d'abord par le style. Les récits, oui, les récits, leur environnement ne me déplaît pas. J'étais aussi parallèlement en train de regarder très mauvaise fiction Netflix, Altered Carbon, dont on parlera demain, qui tente d'inventer un monde d'anticipation et qui quand même... Non, c'est la semaine prochaine, Lucine, pardon. Il faut bien se préparer, il faut bien préparer les émissions à l'avance. Je me dis vraiment, on n'y arrive pas. Et je pensais aussi à Marie Dariussec et ce roman sorti à la rentrée dernière, qui pour moi n'arrivait que très péniblement à construire un monde d'anticipation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pages. Surpris aussi que Marie Redonnet soit de la génération qui est la sienne et pas une toute jeune auteure qui pourrait effectivement avoir plus de familiarité avec les récits de science-fiction, de jeux vidéo, etc. Ce qui fait qu'elle est quand même, on le lirait sans voir le nom sur la couverture, on pourrait penser que c'est une jeune ou un jeune brillant auteur. Donc tout ça m'a absolument réjoui de bout en bout. Et comme vous, c'est vrai que les 50 dernières pages du livre, en effet, c'est pas un petit texte dans lequel Marie Redonnet raconte sa vie d'écrivain. En même temps, c'est fait pareillement de façon très factuelle. Vous disiez tout à l'heure, Elisabeth Franck Dumas, oui, alors quand elle a besoin, bon, elle décide que Moni sait tirer avec un fusil. Ben oui, ben c'est bien parce qu'elle le fait sans prendre 36 détours et parce qu'effectivement, elle le décide et que tout d'un coup, il y a dans ce récit aux phrases très sèches, des accélérations. D'un coup, il peut y avoir une scène qui prendrait 20 pages. C'est quelqu'un qui va prendre 4 lignes d'un paragraphe chez elle parce qu'elle a besoin que son récit avance vers le point qu'elle a décidé à l'avance. Moi, il y a à la fois une efficacité et en même temps, moi, stylistiquement, contrairement peut-être à vous, Elisabeth Philippe, moi, je suis assez passionné par ce type d'écriture qui arrive à être d'une précision, d'une immédiateté, moi, qui m'ont fait, en fait, rentrer tout de suite dedans. C'est pas vous, Elisabeth Philippe.
Si, non, je suis plutôt aussi sensible à ce type d'écriture. Mais là, je trouvais qu'il y avait presque une forme d'excès dans le peu, dans quelque chose d'assez plat au départ, mais parce qu'il faut un certain temps. Alors moi, je serais en désaccord avec vous sur l'immédiateté. Ouais. Je trouve qu'il faut un temps justement pour que ça se mette en place, que tout ça prenne forme et que pour faire émerger plusieurs dimensions justement.
Lucille Comeau.
Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'humour justement dans ce caractère très arbitraire de distribuer d'un seul coup des capacités à des personnages ou alors même il y a quand même une sorte d'avatar du 11 septembre comme événement qui se passe vers la fin puisqu'il y a un quartier d'affaires de cette fameuse ville qu'on peut imaginer un peu anglo-saxonne quand même qui s'effondre entièrement. C'est pas deux tours là, c'est toutes les tours du quartier d'affaires qui sont attaquées. Et il y a une manière comme ça de jouer avec les références qui m'ont vraiment fait penser à en effet un jeu vidéo, même à un jeu de plateau, c'est-à-dire on a des petites babioles sur un plateau, on les dispose, on lance les dés et puis hop, tout est bouleversé. Je pense qu'il y a un humour de la référence, puis il y a une manière de donner quelque chose au lecteur et hop, de le retirer aussitôt, qui est vraiment profondément ludique. Moi, j'aime aussi ce dont vous parliez à Arnaud en disant oui, on a l'impression d'une toute jeune auteure. Je pense que c'est lié aussi à cette manière d'utiliser les références, qui sont aussi des références de toute une culture populaire. Vous parliez de Altered Carbon, en effet de série. Moi, j'ai même pensé à Game of Thrones dans l'espèce d'établissement comme ça, hop, assez rapidement, d'une géographie totalement différente, avec des noms, toute une onomastique et des noms de lieux qui ne veulent rien dire en fait, qui sont tous totalement différents. Il y a des bouts de pays de l'Est. Le personnage principal, Willy Cho, par exemple, il habite dans un fort où il voit à la fois un désert. Où il y a des hordes de barbares, on ne sait pas trop qui s'entretuent. Et de l'autre côté, il y a la mer. Et puis, il y a une guinguette, quelque part, en contrebas. Toute cette espèce de géographie un peu de pacotille, ça m'a vraiment fait penser à des séries de science-fiction. Donc ça m'a plu parce que j'ai trouvé ça assez drôle. Et alors, à l'inverse de vous, peut-être, je trouve que le texte, justement, final... donne trop de choses et noie un peu ça. Moi, j'ai été déçue finalement de lire ce texte parce que tout le rapport à la psychanalyse que je sentais un peu dans la manière de symboliser, de se référer au conte en permanence, je pense que j'essaie un peu de l'évacuer parce que j'avais pas trop envie de lire ça.
Ouais.
Et du coup, voir que bon, c'est vraiment ça qui l'intéresse, que c'est dans la sécheresse du style qu'elle trouve justement l'archaïsme d'arrêt existentiel, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, j'aime le texte m'intéresse en soi, mais la disposition des deux, je trouve presque explique trop la première partie.
Oui, le rapport à la psychanalyse n'est peut-être pas ce qui m'a le plus passionné, mais ce qui m'a passionné, ce que disait Elisabeth Franck Dumas, c'est cette volonté absolument farouche. Alors d'ailleurs, il me semble qu'elle réécrit quand même pas mal d'histoires sur le silence total qui aurait entouré la sortie de Splendid Hotel. Il me semble que je faisais mes débuts dans cette maison et que le silence, il était quand même tout relatif. Parce qu'elle dit, hein, aucune mention dans la presse ni à la radio. J'ai quand même un souvenir très précis en l'occurrence. Voilà, elle réécrit les choses. Houellebecq et Bernard-Henri Lévy en prennent pour leur compte aussi au passage, d'une façon assez drôle, surtout Houellebecq.
Oui, même et si puis elle est même pas totalement généreuse avec Jérôme Lindon non plus.
Non, pas tellement. Il est surtout jaloux de son talent, qu'elle dit.
Oui, mais c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, tout est vu par le prisme de sa propre volonté, de son aventure personnelle, et donc, le reste passe par frères et fracas. Mais, alors, c'est amusant ce que vous dites, je trouve qu'en effet, les trois récits sont totalement... pourrait être écrit par un jeune auteur. En revanche, et c'est peut-être ça le problème, la cinquantaine de pages à la fin sont très, dire datées, mais c'est totalement...
Le
rapport à la psychanalyse, les combats politiques,
l'édition aussi.
C'est très... Voilà, ça date.
Ah oui, mais c'est son parcours. C'est,
elle est censée l'avoir écrit quand, la postface ?
Il y a, c'est indiqué
après,
au tout début.
Après, puisqu'elle parle de Trio pour un monde.
C'est indiqué au tout début. Il y a quelques années, dans les circonstances qu'elle détaille elle-même, ce qui n'est pas tout à fait vrai, elle a été amenée à s'expliquer son parcours d'écrivain. Il y a une note de l'éditeur. Elle a repris un peu ce texte qu'on trouve à la fin de Trio pour un monde égaré. Alors, j'ai fait mes comptes. Première, deuxième et troisième histoire. 27, 30 et 30 pages. Effectivement, un grand équilibre et surtout une... très très grande économie de pages pour des récits d'une très grande ampleur. Enfin, moi, j'ai envie de tirer mon chapeau à ce jeune auteur brillant qui est Marie Redonnet, qui nous a tous intéressés d'une façon ou d'une autre avec ce trio pour un monde égaré. Coppelia Ménardi, je ne vous ai pas demandé si on avait des commentaires concernant le livre de Marie Redonnet.
On a un de la blogueuse Sur la route de Joystein sur Twitter qui parle d'un univers singulier, de personnages atypiques et d'une auteure qui se découvre.
Bon, ben voilà. On est à peu près d'accord pour ce livre paru au Tripode. À suivre dans la dispute, Jean Rollin et Claire-Louise Bennett.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte.
Suite donc de cette émission consacrée ce soir à la littérature avec le nouveau livre de Jean Rollin dans lequel l'écrivain fait toute la place à l'une de ses passions, l'ornithologie, le traqué kurde du titre étant le nom d'un oiseau. Retour pour rejoindre la route de Nouakchott, nous avions dû rouler quelque temps à travers une étendue de sable et de cailloux parsemée d'épineux parmi lesquels j'eus la chance d'apercevoir successivement une courvite Isabelle et un cirli du désert et d'en retirer une satisfaction proportionnelle à la relative rareté de ces deux espèces ou à la difficulté également relative de les reconnaître. Pour le reste, pas plus le courvite Isabelle que le cirlé du désert ne présente de particularité aussi remarquable que les rémiges écarlates des flamants roses. Le cirlé du désert, cependant, a un chant très étrange, inquiétant parce que vaguement anthropomorphe, un peu comme cette bouscarle des Palaos, dont on a pu écrire que son chant évoquait les vains efforts d'un idiot pour jouer de la flûte. Mais c'est une chose d'observer un cirlé du désert dans son environnement, une autre de l'entendre chanter. Dans la littérature du 19e siècle, il arrive que le narrateur, errant désœuvré dans une ville de province, entre par hasard dans une salle de concert où l'on donne un opéra. La même chose m'est arrivée il y a quelques années en Ardèche, sauf qu'au lieu d'une salle de concert, il s'agissait d'une salle polyvalente, ainsi que l'on appelle désormais ce genre de choses, et qu'au lieu d'un opéra, c'était une conférence qu'elle accueillait, une conférence donnée par un très vieil ornithologue qui avait été un pionnier de l'enregistrement des chants d'oiseaux. Après le troglodyte amazonien qui, quant à lui, donne l'impression de maîtriser vraiment l'art de la flûte et rencontre toujours un succès mérité, le vieil ornithologue, avant d'enchaîner sur un enregistrement de Cirly du désert, raconta dans quelles circonstances il l'avait réalisé et comment, parce que son véhicule, plusieurs heures auparavant, était tombé en panne dans un repli du Sahara par où personne n'avait aucune raison de passer, il s'était dit, tout en l'enregistrant, que ce chant du Cirly serait probablement la dernière chose qu'il entendrait. Ainsi, non pas débute, mais ce clos, ce traquet kurde, j'ai eu envie de faire entendre ce passage-là, alors la flûte pour Lucille Como, mais parce que c'est un... je dois dire que je suis très impatient de vous entendre parler de ce livre qui m'a, moi, pas mal dérouté. Elisabeth Franck Dumas.
Oui, ben alors c'est vrai que si on connaît et qu'on est amateur de Jean Rollin, cette passion pour l'ornithologie, bon, qui apparaît quand même hein, dans d'autres livres.
Façon assez discrète.
C'est peut-être un petit peu déroutant, mais bon, tout est affaire de métaphores. Et puis il arrive quand même, avec ce, grâce à ce petit traquet kurde, qui est donc un petit oiseau du nom savant donnant Xanthoprimna.
Ah ça, je vous l'ai laissé, vous voilà, l'avez remarqué.
Qui apparaît au sommet du Puy de Dôme en mai 2015. Alors cette occurrence est totalement... historique et inexpliqué, car cet oiseau traîne généralement dans les montagnes au sud-est de la Turquie et à l'ouest de l'Iran. Et évidemment, la métaphore apparaîtra à tous les lecteurs qui ont envie de la voir apparaître, qui évoquent d'autres trajets concomitants par d'autres populations venant des mêmes endroits. Bon, trajet sur lesquels Jean Rollin finalement ne s'appesantit jamais trop. Voilà, le message est d'autant plus fort qu'il ne le hurle pas. Enfin, donc ce petit oiseau qui a parcouru des milliers de kilomètres apparaît là au moment où le peuple kurde se bat contre l'État islamique à Kobané. Et alors l'apparition de cet oiseau, c'est un prétexte d'abord pour se lancer pendant une centaine de pages dans une petite histoire de l'ornithologie qui, on s'en rend compte, est aussi une petite histoire de l'espionnage, une histoire des relations entre l'Occident et le Moyen-Orient, du colonialisme, de l'interventionnisme occidental. Donc après, on peut tirer les conclusions qu'on veut. Truffé de personnages vraiment hauts en couleur, notamment l'inénarrable menteur, tricheur, voleur, plein de panache, qui est Richard Meinertzhagen. Je veux dire que ça fait longtemps que toute catégorie d'écrits confondus, je n'avais pas rencontré un tel phénomène qui m'avait autant plu et qui a légué 20 000 oiseaux empaillés au British Museum à sa mort. Alors, moi, les plaisirs que j'en ai tirés, bah, d'abord, il y a la phrase de Rollin, cette manière de s'exprimer un peu en retenue pince sans rire tout le temps, tout en disant très long, ce flegme et cette anglophilie amusée, comme s'il était nostalgique d'une époque plus civilisée, alors que c'est une fiction, évidemment, puisqu'il y a des guerres très féroces qui sont livrées dans le milieu de l'ornithologie. Et cette manière aussi de décrire les lieux. Rollin n'a pas son pareil pour décrire un pont enjambant une rivière, la topographie d'une vallée, de montagne. Mais surtout, bon, sans vouloir empiéter sur ce que diraient peut-être mes camarades, je trouve que c'est poignant, car il y a... je dirais un message là, avec l'apparition de ce petit oiseau avec son long trajet, qui, s'il n'est jamais relaté de manière explicite, est vraiment est extrêmement émouvant. Voilà.
Elisabeth Philippe, émue.
Émue, déroutée, mais comme toujours avec Jean Rollin, je crois que c'est pour ça qu'on aime ses livres. En tout cas, moi, c'est mon cas, parce qu'on ne sait jamais où il va nous emmener. Même quand il nous entraîne dans des lieux connus comme Los Angeles, c'est jamais les images que l'on en connaît.
Parce
que
le ravissement de Britney Spears, c'était tellement merveilleux. Spears,
parce que Jean Rollin a cette grande particularité, ce grand mérite, en tout cas à mes yeux, de ne pas avoir son permis de conduire.
donc, prendre le bus à LA, c'était drôle.
Exactement, et marcher, ce qui ne l'empêche pas de... d'arpenter les contrées les plus lointaines. Et c'est encore le cas ici, puisque si tout commence dans le Puy-de-Dôme, évidemment, sa traque du Traquet va l'emmener jusqu'au Kurdistan, alors même que à quelques kilomètres de Mossoul, alors même que la guerre fait rage. Et lui, pendant ce temps-là, il se promène avec ses jumelles, accompagné d'un fixeur, dans les montagnes, à la recherche de ce petit oiseau. Donc, moi, voilà, il y a tout ce qui me plaît chez Jean Rollin, cette attention portée aux animaux, à des détails. Il peut parler d'une guerre civile comme dans Les Événements, un de ses précédents romans, et pour autant s'attarder sur un brin d'herbe, sur des choses qui paraissent comme ça totalement anodines, mais c'est ce qui fait aussi son style et ce que j'apprécie énormément chez lui. D'autant que là, en parlant des oiseaux, c'est déjà la possibilité pour lui d'introduire une très grande poésie, parce que le simple nom, les noms d'oiseaux, enfin, je trouve que c'est extrêmement poétique. Il parle des mésanges pendulines de la Caspienne, du roselin du désert, du pouillot à grands sourcils, de la fauvette babillarde, enfin tous ces noms, c'est absolument merveilleux. Et ça se fond très bien avec ce qu'Elisabeth Franck Dumas décrivait, ce ton pince sans rire de Jean Rollin, cette ironie comme ça, tout en retenue, même pour évoquer cette espèce de nonchalance, de détachement, même pour évoquer les pires bassesses ou vilainies des êtres qu'il dépeint. Et puis on apprend beaucoup de choses sur l'univers de l'ornithologie. Il fait un détour par l'île d'Ouessant notamment, où il nous parle des cocheurs. Donc puisque les ornithologues ou les amateurs d'oiseaux sont toujours munis d'un petit carnet sur lequel ils cochent les espèces d'oiseaux qu'ils ont pu admirer. Non, moi j'ai trouvé ça extrêmement réjouissant et puis extrêmement subtil aussi, cette façon de raconter l'histoire d'une région, l'histoire postcoloniale en passant par ce petit oiseau assez anodin qu'est le traquet kurde. Je trouve ça absolument formidable. Donc il y a un côté, une espèce de mélange de Tintin et de Jonathan Franzen, parce que Franzen est aussi un grand amateur d'oiseaux, donc j'ai trouvé ça plutôt réjouissant.
Lucille Comeau, vous allez réjouir aussi.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre et pourtant, en effet, je me fiche absolument des oiseaux et j'ai même du mal à comprendre comment on peut partir à Ouessant pour cocher des trucs sur les oiseaux. Mais peut-être justement que j'ai une curiosité pour les gens que ça intéresse, parce que ça m'est totalement étranger. Donc déjà ça m'intéresse plutôt. Et puis, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la structure du livre qui, en effet, fait se replier sur elle-même. La première partie qui est quand même très largement consacré à ce personnage dont parlait Elisabeth Franck Dumas, qui est donc Meinert Sagen, et une partie à la première personne. Or, ces deux personnages sont totalement équivalents. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux enquêteurs, ils sont tous les deux un petit peu soupçonnés d'espionnage, puisque Jean Rollin lui-même, avec ses jumelles à côté de Kobané, bon, on peut imaginer que parfois il ne fait pas qu'observer des oiseaux. Ils ont donc beaucoup, beaucoup de choses en commun, y compris la posture de chercheur d'oiseaux. Or, Meinert Sagen, c'est un imposteur. C'est-à-dire que c'est un ornithologue qui a certes trouvé certains oiseaux, mais qui en a volé beaucoup d'autres, notamment dans les musées, qui a recopié des pages et des pages d'autres ornithologues de son époque, voilà, et qui les a plagiés, hein, littéralement. Donc il y a quand même un humour de la part de Jean Rollin sur sa propre écriture et sur sa propre manière de traiter l'information. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se demander s'il y est même allé dans le Kurdistan irakien, s'il a bien vu un traquet kurde. De ce point de vue-là, je trouve que c'est presque un coup de maître que la forme du livre. Et puis par ailleurs, même à petite échelle, il y a un humour vraiment, par exemple sur le fameux Meinert Sagen, il y a un chapitre qui commence par cette phrase: quel homme n'a jamais rêvé de parcourir le monde en compagnie de sa petite cousine, collectionnant les oiseaux et de ceux-ci les poux, et traquant ça et là des agents bolcheviques. Je trouve que c'est très drôle, c'est très souvent en début ou en fin de chapitre, donc il manie bien la forme, Jean Rollin. C'est très efficace. Ça m'a aussi fait penser au roman de Vuillard. Bon, il se trouve que là, je viens de faire une lecture intensive de toute l'œuvre d'Éric Vuillard, mais dans cette manière d'attraper une petite chose qui paraît toute petite, comme ce petit oiseau, ce petit traquet, et en fait, par un jeu de coïncidences qui en fait n'en sont pas, c'est de la pure manipulation, nous dérouler toute une histoire d'une région du monde en quelques pages, ça, il y a quelque chose de cette démarche-là aussi, qui est purement informative, enfin même journalistique on pourrait dire, qui est en plus passionnante. Donc, très, très bon.
Alors, information, vous avez révisé votre chevillard parce que vous avez enregistré avec lui une masterclass pour France Culture qui passera dans, j'ai dit quoi ?
Éric Vuillard, Chevillard.
Oh, Chevillard, bon, bah, il sera bientôt là. Non, Vuillard, que j'aime beaucoup. Ce sera dans l'été prochain, sur l'antenne de France Culture. Peut-être quelques avis qu'Opélia Ménardi, glanés sur Twitter, Facebook, je ne sais.
Oui, sur Twitter, Pierrick Lafleur recommande le Traquet kurde de Jean Rollin parce qu'il donne plein d'informations sur les ornithologues anglais, diplomates et ou espions. Il y a aussi Ila qui dit s'être, je cite, levé tôt pour Jean Rollin, qui associe de commun avec Jean Rochefort ou Jean-Pierre Marielle. Je me contrefiche de l'intrigue tant qu'il la narre. Il pourrait me réciter le beau teint que je serais toujours enjoué par le ton, le style, la langue. Enfin, Lapinesco Pixie G parle d'un auteur découvert au hasard lors d'une discussion au Salon du Livre avec un éditeur génial et dit en être tombé amoureux et guetter depuis chacun de ses livres.
Alors, moi, je guette chacun des livres de Jean Rollin, ça j'avoue que chaque fois j'en... Il y en a un nouveau, je suis absolument extatique, mais que là j'ai eu quand même quelques difficultés avec ce Traquet kurde. Je me suis demandé quand même assez rapidement si j'allais poursuivre ma lecture. Alors, c'est parce que, comme c'est Jean Rollin, bon évidemment je lis le livre parce qu'il n'est pas très long en plus, et alors comme il est programmé à la dispute, là je n'ai plus aucune raison de ne pas le lire. Mais Maynard Segan, alors effectivement personnage fascinant, vraiment...
Falstaffien,
puis alors il y a beaucoup de choses, il y a sa femme, il y a ses orientations sexuelles, il y a ce qu'il dit sur le pauvre Lawrence d'Arabie, qui prend cher au passage, enfin bon, c'est vraiment une méchanceté faite homme et un sacré gredin, pour pas dire autre chose, mais évidemment, enfin pas évidemment, dans ce livre-là, Rollin en fait vraiment un personnage anti-romanesque, parce qu'il relate des faits d'une façon très sèche. Moi, à chaque fois, j'avais des promesses, c'est un peu comme ce que vous disiez, Lucille Comeau, sur les débuts et fins de chapitre. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a toutes les phrases au milieu, et moi, l'ornithologie, bon... Je n'ai absolument rien contre, mais j'avoue que ça ne me fascine pas. Et l'énumération pour l'énumération, pour moi, ça n'a pas un charme qui tient sur la durée d'un livre.
Mais il n'est pas vraiment dans l'énumération.
Ah, mais ça n'arrête pas. Écoutez, quand même, il y a un nombre. Enfin, on pourrait. Je ne vais pas compter là aussi.
De noms d'oiseaux.
De noms d'oiseaux.
Non, c'est parsemé.
Ouais, bah, il y en a beaucoup.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Si on fait le compte, et c'est vrai que ça m'amuse.
Vous n'êtes pas sensible à la musique.
Si, mais pas sur 150 pages.
À se tordre.
Justement, c'est ce qui m'a le plus manqué, c'est que justement, moi j'ai trouvé qu'il y avait assez peu, contrairement à son habitude, assez peu d'humour. Alors j'entends bien le sous-texte et le chant historique qu'il dresse, mais vous parliez aussi tout à l'heure, j'ai noté de l'implicite, trop implicite. Au bout d'un moment, ça risque de passer quasiment inaperçu le sujet qu'il traite. Mais ce qui m'a intéressé, quand même pour finir sur une note positive avant de vous rendre la parole, c'est cette bascule, page 104, quand on en arrive brusquement, ça j'aime cette brusquerie-là, au contemporain, on est dans la quête de Jean Rollin, qui elle-même est assez, je ne dévoilerai rien, mais assez antispectaculaire, on va dire. Et ça, c'est, je trouvais ça plutôt bienvenu à ce moment-là. Elisabeth Franck Dumas, vous voulez me contredire sur plein de choses, sur à peu près tout ce que j'ai dit,
non,
je pense.
Non, moi aussi j'adore cette apparition page 104, où en fait on lit, non mais j'avais
oui,
noté aussi le numéro de la page, parce que deux pages, on se dit mais il y est, je rêve ou il y est. Alors on revient en arrière, ah bah oui, il y est, et il, sans fanfare ni trompette, voilà,
vraiment.
Il est au Kurdistan irakien.
Là, bim,
et ça c'est très très bien fait.
Ouais.
Non, alors moi je trouve ça hilarant, justement.
Ouais.
Pour la raison qui vous déplaît, alors c'est peut-être, j'en sais rien, mes origines anglaises qui se manifestent, mais je trouve que la sécheresse justement du style, le contraste est tellement fort avec la passion qui dévore ces ornithologues que, par exemple, et alors ça c'est ni en début ni en fin de chapitre, c'est page 40, c'est au beau milieu d'un chapitre.
Alors attention,
on parle
page
40. De Kevin Rylands, l'homme qui le premier a repéré le guillemot à long bec au large de Dawlish Warren. Il explique dans le magazine British Birds que son émotion était telle lorsqu'il identifiait l'oiseau qu'il parvenait à peine à maintenir ses jumelles braquées sur lui et que par la suite il resta, ouvrez les guillemets, en état de choc pendant la plus grande partie de la matinée. Je disais, moi, je lis un truc comme ça.
C'est un exemple. Je suis d'accord avec vous, là. C'est parfait.
Non, le texte en est truffé. Vraiment, je trouve qu'on rit.
Non, mais bien sûr qu'on peut en trouver ces genres-là, quand même. Mais il faut bien que j'amène un peu de discorde dans cette dispute.
Et ça vient justement du contraste entre la sécheresse, la retenue du style et cette passion dévorante qui les anime tous.
Lucille Gaumont.
Et qu'on ne s'explique pas, d'autant plus qu'on ne se l'explique pas.
C'est ça, que tout le monde finit par aimer les oiseaux à toute époque confondue. Alors encore plus les hommes de pouvoir, de tous les nazis rencontrés par ailleurs, à tout l'Empire britannique. Enfin, tout le monde, en fait, adore les oiseaux. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. Il y a notamment un passage, juste avant celui que vous citiez, Elisabeth, où il est question à nouveau de vol, parce que ce qui est quand même très drôle, donc c'est quand même que ce type Maynard Sagan, il n'arrête pas de voler des oiseaux morts à ses collègues. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me fait rire déjà. Imaginez ça. Et il en vole, et donc du coup, évidemment, on essaye tout le temps de chercher la légitimité ou pas de ces découvertes. Et il y a même le FBI qui se retrouve avec des fibres, je cite, de, je ne sais plus comment s'appellent les oiseaux, de ciserins flammés, qui radiographient pour savoir si c'est bien Maynard Sagan ou je ne sais plus qui les a trouvés. C'est quand même hyper c'est drôle d'imaginer des types du FBI
et évidemment,
qui cherchent ça. Ben, non. Et puis c'est vrai surtout, c'est pas une blague.
Non, mais il y a plein de choses drôles. Je voulais vous dire deux phrases drôles.
Hein. Voyeur, hein. La porte.
Une en fin de chapitre, une en début. Alors, non. La ville de Dohuk, Tiret, dans le voisinage de laquelle on a trop tendance à l'oublier, Sir Pexy Cox et le major Chisholm Prélever en 1922, un spécimen de traqué kurde aujourd'hui conservé au musée de Tring, virgule. Voilà, on a trop tendance à l'oublier, en effet, ça me fait beaucoup rire. Et puis cette phrase aussi, quelques mois plus tard, en juillet 28, à la suite d'une séance de tir au revolver en compagnie de Maynard Sagan, elle reçoit malencontreusement une balle dans la tête. Mais moi j'ai envie de ça à toutes les pages.
Mais il y a une utilisation de l'adverbe, alors qu'en général l'adverbe c'est quand même le fléau.
C'est vrai que de recevoir malencontreusement une balle dans la tête, c'est vrai.
Oui,
que
mais très anglo-saxon.
En parlant d'une espèce d'oiseau qui s'appelle le Chrysopidia, et il ajoute, dont le nom savant pourrait se traduire étourdiment par fesse en or. Il y a quand même à chaque fois une utilisation de l'adverbe qui fait mouche, moi qui me fait beaucoup rire, et pas qu'en début et en fin de chapitre.
Bon, il faut que je relise le livre, ça
oui,
veut me dire.
Oui, ben voilà.
Bon, j'ai pas dû le lire un bonjour, après tout. Un dernier mot, Elisabeth Philippe.
Ben, simplement signaler que, en plus, pour les inconditionnels de Jean Rollin, mais je pense qu'ils sont nombreux, il faut qu'ils le soient, il y a également deux livres de Jean Rollin publiés dans les années 80 qui paraissent en poche, La frontière belge et Journal de Gand aux Aléoutiennes. Très très absurde, notamment le second, le journal de Gand aux Aléoutiennes. Il y a un côté petit quinquin qui est extrêmement drôle. Donc,
bien avant l'heure,
c'est à la petite Vermillon.
C'est une très belle annonce que vous faites là, Elisabeth Philippe. Je précise, hein, parce que nous avons Élise Como de son second prénom. Le traqué kurde de Jean Rollin, publié chez POL.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littéraire, c'est L'étang de Claire-Louise Bennett aux éditions de L'Olivier, dans une traduction de Thierry Décotigny. De la narratrice, on saura qu'elle a abandonné ses études pour s'installer dans la campagne irlandaise, l'écriture de sa thèse. Elle s'est installée près d'un étang. Le livre alterne très courts chapitres et chapitres plus longs qui vont nous faire entrer dans les pensées de cette femme, pensées qui peuvent être occupées à des choses très diverses, souvent très minimales, que ce soit la question des légumes ou de boutons de cuisinière, mais aussi des pensées qui ont trait à un homme, à sa sœur, à cette thèse qu'elle a abandonnée ou à la brutalité de l'amour. Tout d'abord, il nous semblait que tu étais très beau et les fenêtres principales de ta maison étaient parfaitement positionnées pour exploser le flamboyant reflet du couchant. Un soir, alors que nous rentrions des champs, cet effet fut si prodigieux que nous crûmes que tes chambres brûlaient. Nous n'aimions rien tant que de ratisser le gravier cristallin de ton allée, puis de grimper à un arbre impeccable qu'il abordait et d'attendre. Nous entendions le moteur gronder dans la vallée, suivi d'un silence excitant devant lequel, agitant nos bottes, nous imaginions l'étreinte de cuir de tes mains sur les volants, à gauche et à droite. Oh, mais nous n'étions que des petites filles à l'orée de l'individuation féminine, des petites filles pas pour longtemps. Les deux autres restaient près du ruisseau à jouer au cricket, et je franchissais le mur de ton jardin ornemental, me couchais dans l'herbe impraticable et m'assoupissais pelotonné autour d'un coquillage lilas qui était bien sûr mon bien le plus précieux. C'est donc la toute première page de l'étang, le premier segment de ce livre, chaque segment d'ailleurs ayant un titre, celui-ci étant « Voyage dans le noir ». Et c'est Elisabeth Philippe qui commence à nous parler de ce livre de Claire-Louise Bennett.
J'étais d'abord séduite par la langue, magnifiquement, je trouve, transmise par la traduction de Thierry de Cotigny, une langue très délicate, très élégante, parfois ironiquement précieuse aussi, puisque cette narratrice dont on sait peu de choses est une ancienne thésarde qui a certes mis fin à ses recherches sur la brutalité de l'amour, mais chez qui on sent une maîtrise des concepts de la langue, mais toujours tordue avec une forme de fantaisie et de poésie qui, je trouve, sont très très séduisants. Alors, comme vous le disiez, on est plongé donc dans dans la psyché de cette narratrice, une psyché légèrement accidentée, puisque la narratrice très solitaire nous paraît quelque peu inadaptée, mais c'est ce qui fait également son charme. Et en cela, Claire-Louise Bennett se présente comme une héritière de Virginia Woolf, une grande représentante du flux de conscience. Donc, on est vraiment dans ce flux de conscience de la narratrice. Et si chez Virginia Woolf il était question d'une chambre à soi, ici c'est un cottage à soi dans lequel se débat cette narratrice anonyme, enfin ce débat. On la voit faire le ménage, faire à manger, faire pousser ses légumes, enfin tenter de cultiver son jardin même si elle cultive davantage ses névroses. Il y a quelque chose de très amusant comme ça, il y a aussi quelque chose de presque de l'ordre du dandy. Ouais, elle m'a fait penser un peu à des esseintes, mais un des esseintes au féminin chez qui finalement la nature qu'elle contemple aurait remplacé l'artifice, même si parfois il y a aussi tout le moment où elle reçoit deux estampes japonaises, alors elle prévient bien qu'il ne faut pas se tromper, ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'extrêmement raffiné et qui aurait énormément d'argent, mais il faut qu'elle compose le moment parfait pendant lequel elle pourra enfin admirer et déballer ses estampes japonaises. Alors tous ces petits détails m'ont fait penser un peu à Huysmans. Évidemment, on sent que Claire-Louise Bennett, elle aussi, a beaucoup lu. Donc on trouve des allusions à Sylvia Plath, à James Joyce, évidemment, donc comme je le disais, à Virginia Woolf. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment séduite, c'est cette fantaisie, cette sophistication délicate. On trouve des choses aussi absurdes que parmi les segments, les différents segments qui composent ce roman, une ode au concentré de tomate, un court poème qui est magnifique et absolument déchirant. Donc il y a ce mélange d'humour, de sophistication, d'intelligence, et contrairement au titre, donc qui l'étend, c'est jamais une eau stagnante dans laquelle on est plongé, mais une eau très très vive. Qui n'est pas exempte d'une certaine angoisse, toujours latente.
Ouais, il y a un grand concours de mimiques chez Lucille Gaumeau, donc maintenant j'attends de savoir ce qui se cache derrière ces mimiques nombreuses.
Non, mais je vais prendre le contre-pied d'emblée, bien que je ne suis pas du tout opposée à ce livre d'emblée. Mais il y a quand même un côté un peu, pour rebondir sur le souci du détail et sur le côté extrêmement précautionneux de cette écriture qui s'attache à décrire en effet tout petit objet, quelque chose qui fait un peu El Déco pour moi. J'ai quand même beaucoup pensé à ça. Non, mais vraiment, à d'accord. De la littérature féminine sur l'ameublement, sur
l'électroménager
oui,
aussi.
Alors, aussi hein. Oui, alors tout à fait. Alors ça, du coup, ça l'éclaire un petit peu sous un autre jour, parce que j'avais pas pensé à ça, au dandisme, etc. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans cette préoccupation du quotidien, de la tâche ménagère, de l'objet, etc., qui est extrêmement bourgeois et qui en effet entre en contradiction avec le statut de ce personnage qui est très indéterminé et dont en effet on apprend au fur et à mesure qu'elle est presque, c'est presque une sociopathe, hein, vous disiez inadaptée, mais elle a quelque chose de vraiment très très retranché et de voilà de difficile quand même à rencontrer, on a l'impression. Donc dans cette contradiction-là, il y a quelque chose qui se joue, mais qui pour autant n'efface pas totalement ma première impression d'agacement un peu devant le pointillisme de l'écriture. Moi, là où ça fonctionne bien, vous parliez du concentré de tomate, je trouve, c'est quand la description très comme ça, très précise, s'attache à des choses avec à la fois du plaisir et de l'inquiétude. Donc il y a un passage, par exemple, au début, je crois, du roman, où il est question de hacher des choses. Hacher des petites noix, hacher des petites... Et là, on sent l'espèce de côté obsessionnel d'un esprit un peu malade, quand même, qui a un rapport aux choses très, très perturbé. Ou point d'inquiétude, vraiment, même pour elle. Où là, bon, ça bascule un peu, ça m'intéresse. Il y a aussi un autre passage qui est formidable de ce point de vue, où L'héroïne va pour se promener, donc elle est habillée, elle est en chemise de nuit, elle met un manteau léger, je cite, par-dessus pour aller se promener, et c'est le coucher du soleil, et là, énorme perturbation, parce que toute petite chose est une énorme perturbation, en fait. Elle voit un jeune homme qui approche, et donc du coup, ça modifie totalement sa perception du paysage, du chemin, de son propre corps, et elle va pour se mettre contre un portail pour essayer de gérer la situation, donc, ça c'est assez drôle quand même, comme elle peut, et en plus de cette catastrophe absolue qu'est la présence de ce jeune homme sur la route, il se trouve que les vaches autour se mettent à faire des choses extrêmement bizarres. Donc là, on a pour le coup une débauche d'adverbes. On parlait d'adverbes pour exprimer, c'est un peu le fonctionnement entier du roman, à quel point les toutes petites choses peuvent être des bouleversements existentiels, ontologiques profonds sur une personnalité. J'avoue que sur la longueur, en fait, ça m'ennuie un peu. Les petits chapitres sont super parce que ça ressemble à des poèmes et là, du coup, ça fonctionne bien. Mais la longueur du roman lasse, je trouve.
Elisabeth Franck Dumas sur Claire-Louise Bennett.
C'est vrai qu'il y a un phénomène d'accumulation qui fait qu'au début, alors moi, j'étais absolument enchantée. Il y a un petit passage à vide, mais je ne sais pas si je l'attribuerais au fait que voilà, c'est toujours la même chose, ou si je trouve que la traduction est très inégale. Ouais. Je trouve qu'il y a des segments qui
compliqué
sont très
réussis. Compliqué de traduire un texte comme celui-ci.
Hyper difficile, mais je trouve que parfois, elle ne rend pas justice à ce qu'on devine que le texte doit être. Mais j'aimerais rebondir sur ce mot de précautionneux que Lucille a employé. Je trouve que c'est vrai qu'il y a une attention du détail, un émerveillement sur des toutes petites choses du quotidien, mais qui est sans arrêt percuté par une espèce de 10 tonnes de désinvolture et de manfoutisme. Et c'est la réunion des deux que je trouve absolument géniale. Elle est très souvent une narratrice à qui on ne peut absolument pas faire confiance. D'ailleurs, elle ne se souvient pas. Elle raconte quelque chose, puis elle dit « Oh, mais ça, je ne me souviens pas, mais enfin, peut-être que je me trompe. » Il y a un manfoutisme qui est aussi un rejet des conventions sociales. Elle s'est enterrée là, et je ne sais pas si elle s'entend très bien, d'ailleurs, avec ses voisins. Il y a des choses comme ça qu'on lit entre les lignes. Et moi, j'ai énormément aimé cette liberté. Le fait que la solitude n'est pas un poids, mais au contraire, il se transforme en un émerveillement et une rumination aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la rumination permanent. Que cette femme ne fasse rien, à un moment elle le dit, d'ailleurs elle fait rien, je trouve ça très libérateur, je trouve que c'est un manifeste, c'est vraiment qui va à rebours, pour utiliser un mot très huissement, ce qui va à rebours de tout ce qu'on attend d'un individu qui fonctionne dans la société, que j'ai trouvé vraiment jubilatoire. Et qui ajoutait avec cette attention aux détails, cette manière de s'émerveiller sur les boutons de la cuisinière, le concentré de tomate ou le fait qu'elle aperçoit la lune depuis son bain, ça, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et je pense que l'étang, je ne sais pas, en anglais, c'est « the pond ». J'imagine que la référence à Walden, est plus ou moins explicite. Enfin, qu'on l'entend quand même de se retirer du monde comme une forme de manifeste. Et on sent ça même dans la qualité de la langue. J'ai également aimé cette... Alors, vous parlez d'inquiétude. Il y a carrément une violence sourde qui est là, très présente, qui loge sous terre. Il y a une obsession pour la terre, tout ce qui est en dessous, le retour à la terre. On sent qu'elle pourrait se déchaîner à un moment, dans un segment qu'on pourrait qualifier d'un peu elle déco, la perfection. Elle aime prendre une banane avec ses gâteaux de je ne sais pas quoi. Et tout à coup, elle veut... Non mais, et tout à coup, elle veut se déchaîner sur un chat qui a blessé un roi de lait.
Oui, ça m'a choqué.
Et elle pourrait... Voilà.
Mais elle est très inquiétante. Et moi, elle m'a fait penser, alors pas dans l'écriture, mais dans le personnage, parfois à Ophélie, le personnage de Shakespeare, parce qu'il y a dans le dérèglement du langage qui a lieu à certains endroits, et le rapport à la nature aussi, parce qu'elle est totalement dans le langage et totalement dans le paysage, et ça, je trouve ça génial.
Bon,
Parlé.
Non, pas du tout, c'est que le temps file, je voulais être télégraphique pour dire que moi, j'aime bien ce type d'écriture, ce type de projet, notamment cette première page que j'ai lue, moi, ça me donne très envie, sauf que j'ai ressenti, comme Lucille Comeau, un peu de lassitude. J'ai trouvé les chapitres assez inégaux, et qu'on n'est pas chez Walden, chez Thoreau, on n'est pas chez Pérec, l'épuisement du lieu, on n'est pas non plus chez Geoffrey avec Clémence Picot pour le flux, enfin... Et à propos de références, parce qu'il y a quand même 3 citations en exergue, il manque Flaubert et son livre sur rien, mais je crois qu'elle l'a essayé, mais qu'elle l'a pas tout à fait réussi ici. C'est un livre qui des promesses, mais peut-être que le traducteur rend le texte meilleur qu'il ne l'est aussi, ça peut être dans ce sens-là. Allez savoir. Allez savoir.
Je ne sais pas, parce que parfois, quand même, on reconnaît la forme et la structure très anglaise, calquée dans le français.
C'est vrai, parfois, oui.
Dommage. Mais ça arrive à des segments bien précis. C'est pour ça que je pense aussi que le sentiment d'accumulation a joué.
Bon, on n'a plus le temps. Les temps, Claire-Louise Bennett, L'Olivier, traduction Thierry de Cotigny. Et avant de conclure, le jeu de la dispute avec Camille André qui va nous rappeler la question d'hier soir et ça, elle nous donner sa réponse, Camille.
Sur quel projet Ai Weiwei a-t-il été conseiller artistique des architectes Herzog et Demeron de 2005 à 2008 ?
La réponse était ?
Le nid d'oiseau.
Ce soir, on n'en sort pas. Les DVD du film Pique-nique de Joshua Logan, c'est distribué par Carlotta, la question ?
Pique-nique est l'adaptation sur grand écran d'une pièce de théâtre du même nom qui en est l'auteur.
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Commentaires pour demain, préparez-les dès maintenant à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le compte Twitter Dispute FC pendant le direct. Le direct, il aura lieu comme chaque vendredi au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, dès 19h pour une dispute consacrée non pas aux séries, ce sera la semaine suivante, mais au cinéma. Lucille, comment vous serez encore là avec Charlotte Garçon et Antoine Guillot. Et à notre affiche, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood et Revenge de Coralie Farja.